Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio, c'est ça la France.
Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie.
Et oui, chaque jour est une vie. Louis Chédid, on va en parler ensemble aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir de jolis portraits de reconversion professionnelle, soit par amour, par conviction, pour être en phase avec ses valeurs. Les raisons sont nombreuses. Changer de vie, c'est devenu un rêve pour 8 Français sur 10. On en parle tout de suite avec nos premiers invités.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et je suis en compagnie de Anne Garnier et Olivier Guyot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Nathalie.
Oh, en même temps. Quelle synchronisation, je suis assez impressionnée. Bonjour Olivier Guyot. Alors, vous êtes un passionné de la chaussure pour hommes, hein, que vous sublimez. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'univers de la chaussure?
Oh, c'est pas gentil de demander. on va dire 45 ans.
45 ans que vous revisitez les Richelieu à boucle ou classiques, les mocassins, les bottines, les derbies. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un puriste, quelqu'un qui aime justement rester, enfin, vous revisitez les fondamentaux, mais il y a ce plaisir justement de maîtriser tous les savoir-faire autour de la chaussure, du métier de bottier.
Oui, la chaussure est un accessoire dominant. Les accessoires de bon goût pour hommes sont rares. On a la montre, la ceinture, les chaussures, les lunettes, la barbe ou pas, les tatouages ou pas, mais ça c'est un autre débat. La chaussure, c'est ce que regarde systématiquement une femme.
C'est vrai ?
Oui.
Anne, vous êtes d'accord avec ça ? La chaussure, c'est ce qu'on regarde en premier ?
Pour ma part, oui. Mais je suis un petit peu déformée professionnellement, on va dire.
Bon, il est vrai que la montre, malheureusement, avec le portable, hein, c'est vrai que peut-être qu'il y a de moins en moins de montres, on a tendance à regarder l'heure sur son portable, alors que la chaussure...
La montre est un bijou, effectivement. L'heure, c'est gratuit, on peut la demander à n'importe qui. Les chaussures nécessitent beaucoup plus de personnalité, d'entretien. Le choix est beaucoup plus pointu. Ouais.
Alors, au niveau de votre formation, Olivier Guyot, vous avez fait partie des compagnons? Vous avez fait partie de cette famille des compagnons?
Tout à fait. J'ai eu la chance d'être formé par l'association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France. Donc, ce qui m'a permis de passer de ville en ville, de poste en poste, et d'activités diverses dans le monde de la chaussure.
En France, ou vous avez eu cette occasion de voyager un peu dans le monde entier?
En France uniquement. Ouais.
Et aujourd'hui, donc, vous avez votre magasin est situé dans le 7e arrondissement de Paris. C'est vraiment, faut y aller. Bon, pour ceux qui sont dans le sud, on va quand même décrire cette boutique. Vous l'avez souhaitée chaleureuse, une belle ambiance. Alors, on vient chez vous, on sent qu'on est vraiment dans un univers bien précis.
Alors déjà, c'est un atelier. L'atelier, nous sommes un tout petit peu différent d'une boutique, dans le sens où l'on reçoit nos visiteurs directement au milieu de l'établi. Il y a des coups de marteau, il y a des copeaux par terre. Le monsieur qui nous rend visite est en contact direct avec notre savoir-faire.
Avec la matière première, avec justement ceux qui vont travailler.
Avec les outils, avec nos collègues, avec notre équipe. C'est vraiment un petit atelier parisien, rue de Verneuil. En plein cœur de Saint-Germain. Ah, nous avons eu quelques voisins célèbres, dont Monsieur Gainsbourg, bien entendu. C'est le vrai cœur de Saint-Germain-des-Prés. Ouais.
Mais aujourd'hui, on souhaite de la transparence, de la traçabilité. Là, on a un accès direct sur le savoir-faire.
Là, vous pouvez même, si ça vous amuse, assister à la colorisation, à la patine. On accueille avec grand plaisir nos visiteurs pour cela. Il y a la partie technique qui nous permet de déterminer la longueur, la largeur, plusieurs largeurs disponibles par demi-pointure pour le visiteur. Ça, c'est le rôle du bottier. Ensuite, là où le visiteur, notre client, intervient, c'est dans le choix des couleurs, parce que nous avons...
Un bar à patines.
Ah, nous avons 25 rouges, 50 marrons et une cinquantaine de bleus.
Ouais, non, mais c'est une façon aussi de personnaliser ses chaussures. C'est vrai que la palette est large. Et donc, dans ce beau parcours, Anne vous a rejoint dans cette belle aventure, votre femme. Alors, c'est assez marrant parce que vous n'étiez absolument pas de l'univers de la chaussure, les compagnons du devoir, l'artisanat. C'était très loin de votre première vie.
Ah, très clairement, oui.
Alors, que s'est-il passé ?
Ben, tout simplement, on va dire l'amour. Ouais. L'amour et l'envie.
Expliquez-nous ce que vous faisiez avant de rejoindre Olivier dans cette belle aventure.
Alors, j'étais banquier privé. Je faisais de la gestion de grosses fortunes. C'est-à-dire que je gérais des clients qui avaient au minimum 2 millions d'euros sur leur compte. Donc autant vous dire qu'on ne joue pas dans les mêmes cours. Et j'étais chargée de leur conseiller des placements, de faire un peu d'ingénierie patrimoniale, et voilà, de les accompagner dans la gestion de leur capital.
Vous avez fait ça pendant combien d'années ?
J'ai fait ça, alors j'ai été au sein de la même banque pendant 12 ans, mais j'ai réellement été banquier privé pendant 3 ans. Et j'ai eu une chance à travers ce métier, c'est de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Ma malchance, c'est que je n'ai rencontré que des entrepreneurs qui avaient réussi. Et en même temps, c'était très encourageant. Et ça m'a vraiment... J'avais déjà cette envie en moi, mais ça l'a fait grandir.
Alors ça veut dire quoi, ça, cette malchance d'avoir rencontré que des entrepreneurs qui ont réussi? C'est d'avoir peut-être quoi, idéalisé les métiers de l'entrepreneuriat de...
Peut-être, d'avoir oublié le facteur chance qu'on peut avoir dans la création d'une entreprise et de n'avoir pensé que le travail était le seul outil pour y arriver. Et il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même un facteur chance. Et je n'ai rencontré que des gens qui, ayant parfaitement réussi, ont réussi à accumuler et le travail et la chance.
Avec un parcours qui paraissait très simple, du coup.
Alors simple, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, fort concluant.
Alors qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui, dans cette nouvelle vie ?
Alors, j'allais dire l'incertitude, mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué, et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus excitant. Parce que quand j'ai choisi d'abandonner, je dirais que c'était presque du fonctionnariat privé, mais quand j'ai décidé d'abandonner cette sécurité-là, je savais que je me lançais un peu dans le vide. Donc, pas surprise, mais parfois angoissée malgré tout. J'ai 3 enfants à charge, donc c'est pas tous les jours rose. Et ce qu'il y a de plus difficile, concrètement, pour l'entreprise, c'est de se faire connaître.
Ça, c'est vrai. Gagner en notoriété, alors que l'entreprise s'appelle donc l'entreprise.
L'atelier.
L'atelier s'appelle donc Georges et Georges.
Georges et Georges.
Alors,
oui,
d'où vient ce nom, là, Georges et Georges?
Le premier est sans S et le deuxième est avec un S. Ouais. En fait, pour plusieurs raisons. Comme on l'a dit au début, Olivier et moi, même si nous vivons ensemble, nous ne sommes pas mariés. Il s'appelle donc Olivier Guyot et moi, Alain Garnier, donc ça fait G et G.
Ah, bien.
Donc ça nous représentait un peu le côté féminin de Georges sans S, comme Georges Sand est masculin avec un S. C'est un nom ensuite, en plus, qui a l'avantage d'être international. C'est aussi un hommage à mon beau-père, le mari de ma mère, que j'aimais beaucoup, qui est décédé il y a peu, mais qui était là pour nous accompagner moralement au début. Et puis on a un petit rêve un peu, j'ai un petit rêve un peu utopique, qui est un jour de chausser Georges Clooney, que je trouve être un homme...
Oh.
Voilà. Je ne parle pas que de son physique, je parle de tout ce qu'il fait.
Bien évidemment, on vous croit, Anne.
Mais bien sûr, je vous assure, en termes de physique, j'ai ce qu'il faut à la maison.
Ah, oui, oh, ben voilà, ça c'est un joli compliment. Une belle preuve d'amour supplémentaire, hein, s'il en manquait. C'est vrai que Georges, vous avez évoqué Georges et Georges, mais Georges au féminin, pourtant vous ne faites que des chaussures pour hommes pour l'instant.
Oui, alors au tout début, on a lancé une ligne pour femmes. En fait, le but étant de décliner tous les modèles hommes, de temps en temps en décliner un pour femmes. On a essayé au début, pour être très honnête, ça n'a pas pris. Mais c'est une idée qu'on ne perd pas de vue.
C'est vrai que les hommes sont peut-être plus coquets à ce niveau-là. Non, il y a vraiment un lien particulier entre l'homme et la chaussure. Alors là, il y a Olivier qui me fait un signe. Temps mort. Temps mort, je veux dire quelque chose.
Pas du tout, pas obligatoirement temps mort, je ne me permettrai pas. Il y a un de mes anciens patrons avec beaucoup d'humour qui m'a dit, tu sais, dans la chaussure pour femme, le plus difficile, c'est pas la chaussure.
C'est la femme. Alors là, je vous le dis, hein, Anne regarde son mari. Genre, bon, je pense qu'elle a l'habitude. Là, vous taquinez beaucoup. Non, mais vous faites un parfait d'aujourd'hui. Alors, qui fait quoi ? Donc, j'ai bien compris, le savoir-faire, la maîtrise parfaite, c'est Olivier. Donc, vous, Anne, vous avez en charge la communication, la dimension commerciale, comment ?
Tout l'administratif et une partie des patines. Parce que forcément, on ne peut pas diriger une entreprise si on ne connaît pas un peu le métier. Donc Olivier m'a appris beaucoup de choses techniquement sur les chaussures.
Les événements.
Oui. Et moi, j'ai appris à faire les patines. Donc je gère effectivement une partie des patines, mais on a quand même un patineur artistique à l'atelier. Je gère la communication, l'administratif et aussi le commercial, puisqu'on a une troisième activité. En fait, nous sommes cordonniers, bottiers, et nous avons une activité de chaise de cireur. Nous travaillons sur des événements. Entre autres, je pense que j'ai le droit de le nommer, enfin avec des grands clubs de foot.
Ah, c'est bien ça.
De très grands clubs de foot du sud de la France et de pas très loin d'ici.
Vous avez le droit de le citer. Hein.
D'accord, on travaille donc pour le PSG.
Ah oui.
On travaille pour le Stade de France, on travaille pour l'OM, pour les Girondins de Bordeaux. Et en fait, on propose une prestation chaise de cireur où on prend soin des souliers des invités, principalement en loge. Autant vous dire que cette activité est légèrement à l'arrêt depuis un an.
Mais elle va reprendre.
Elle va reprendre, je pense, en septembre.
Oui. C'est original, ça. Je savais pas qu'on pouvait justement avoir ce petit moment de plaisir pour les hommes qui viennent assister à un match de foot, de pouvoir repartir avec des chaussures parfaitement cirées.
Voilà,
parfaitement.
Non seulement des chaussures bien cirées, mais en plus des éléments techniques pour pouvoir le reproduire. Et en plus, il faut savoir que dans ce genre d'événement en loge, la priorité est au business. Et là, ça leur permet d'avoir une espèce de bulle un peu intime très particulière qui marque vraiment les invités et qui du coup plaît beaucoup aux personnes qui organisent ces événements.
Merci beaucoup Anne Garnier, Olivier Guyot. Merci à vous,
merci à vous.
Et longue vie à Georges et Georges. On va se quitter un court instant et juste après on se retrouvera avec un autre parcours, un autre changement de vie. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio Cessez la France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans Cessez la France, l'émission du savoir-faire français. On vous propose aujourd'hui de découvrir des changements de vie originaux, de beaux changements de vie des Français qui ont osé se lancer. Et oui, 8 Français sur 10 rêvent de changer de vie. Allez, on continue notre voyage avec Amélie Coulombe.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Amélie.
Bonjour.
Alors vous êtes du côté de Marseille, Amélie.
Oui.
Vous avez travaillé chez Haribo pendant plusieurs années avant de vous lancer toute seule en tant qu'entrepreneur dans le chocolat. Mais alors un chocolat particulier pour les enfants, Crocolat. Alors expliquez-nous, pendant combien d'années vous avez été chez Haribo ?
Alors j'ai travaillé pendant 7 ans chez Haribo comme responsable de marque. Où j'ai la chance de gérer différentes marques, notamment des beaux lancements comme Haribo Pic ou encore Chamallow Choco. Donc j'ai mis déjà un premier pied dans le chocolat quand j'étais chez Haribo.
Le chocolat est l'univers des enfants déjà.
Voilà, déjà. C'est vrai que j'ai fait tout mon parcours en fait. J'ai toujours travaillé dans l'univers de l'enfance, hein, parce que j'étais ensuite, auparavant chez Mattel sur Paris et ensuite chez Haribo à Marseille.
Alors
voilà, un parcours dans l'enfance effectivement.
Alors que s'est-il passé ? Donc cette envie de trop, vous avez mangé trop de Haribo ? Vous aviez envie d'aller vers du chocolat, on va dire plus naturel ? On retourne à l'essence même du chocolat ?
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai toujours été déjà passionnée par l'univers de la gourmandise, de la gastronomie, avec depuis assez longtemps en fait cette envie d'entreprendre. C'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser de plus près au chocolat et au chocolat pour enfants. Et j'avais vraiment cette envie d'entreprendre en fait et de m'engager dans un projet plus en phase avec mes valeurs et mes convictions personnelles sur le bien manger, l'environnement. Et voilà, j'ai ressenti en fait ce besoin un peu de réaligner en fait mes convictions personnelles avec mon travail.
Alors du coup, ce Crocolat, qu'est-ce qu'il a de particulier ? En quoi il se distingue vraiment de tout ce que vous avez pu mettre en avant dans votre ancien métier ?
Oui, alors c'est vrai que Crocolat, en fait, c'est parti déjà d'un constat personnel, moi en tant que maman avec mes enfants. C'est vrai que je me suis rendu compte que quand on essaie d'initier nos enfants au chocolat, l'offre qui était proposée en grande distribution était quand même souvent centrée autour de produits très transformés qui ne travaillaient pas forcément sur l'éducation au goût.
Et parfois sans chocolat.
Et parfois avec très peu de cacao, c'est vrai. On a des produits qui sont souvent extrêmement transformés avec beaucoup d'additifs et d'arômes, et on est souvent du coup sur un goût qui est assez éloigné en fait du vrai potentiel du chocolat. Et du coup, j'ai eu envie de retravailler, de repenser un produit vraiment adapté aux enfants à tous les niveaux pour les initier au bon chocolat. Et donc pendant mon année de formation, puisque j'ai fait un CAP chocolatier l'année dernière, j'ai pu travailler énormément main dans la main en fait avec les parents pour co-créer un produit 100% adapté aux enfants en fait à différents niveaux, que ce soit au niveau des recettes du coup qui sont bio et 100% naturelles, sans additifs et épurées au maximum pour vraiment bien ressentir le goût du chocolat. Également avec un contenu ludo-éducatif en fait à l'intérieur des emballages pour faire découvrir aux enfants l'univers du cacao et les sensibiliser aussi à la protection de l'environnement.
Donc pour ça, vous avez repassé un CAP. Donc vous êtes retournée sur les bancs de l'école.
Exactement. J'ai passé du coup une année de formation de chocolatier. C'est vrai que c'est parti aussi de l'envie d'apprendre un métier plus manuel et aussi de pouvoir maîtriser en fait moi-même la partie technique sur le développement des recettes, savoir ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire aussi, parce que le chocolat c'est une matière assez spécifique et assez technique et en même temps très passionnante. Donc c'est vrai que c'était une année hyper riche et qui m'a permis aussi de prendre pas mal de recul en fait pour réfléchir à mes envies et à ce projet de Crocolat.
Et aujourd'hui donc cette aventure Crocolat, vous l'avez lancée il y a combien de temps ?
Alors Crocolat c'est récent puisque j'ai fait ma formation de chocolatier l'année dernière Et en parallèle, j'ai travaillé sur la réflexion autour du projet tout au long de l'année dernière. Et du coup, là, le lancement vient de se faire chez Monoprix, donc en collaboration avec cette belle enseigne, depuis le mois de mars. Donc, c'est vraiment, ça fait quelques mois seulement que les produits sont arrivés en magasin, au niveau national, donc dans toute la France.
C'est une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que vous continuez d'imposer votre nouveau chocolat, hein, avec du vrai cacao. Quel a été le plus compliqué, justement, dans ce parcours? C'est de gagner en notoriété, comme on a pu le voir avec nos intervenants précédents. Se faire aider, se faire accompagner, trouver du financement?
C'est un mélange un peu de tout ça, hein, je dirais, parce que c'est vrai que quand on monte une structure et un nouveau projet comme ça, c'est un peu le parcours du combattant au début, et surtout quand on sort d'une grosse entreprise où tout est très bordé, mais en même temps c'est une magnifique aventure. Mais comme vous disiez, il faut être, je pense, très bien encadré, vraiment s'entourer des meilleures personnes pour nous accompagner à différents niveaux, être très en phase aussi avec ses convictions, je pense avoir une idée très précise de là où on va aller et quel sens et quelle mission on souhaite donner à notre projet. Et en même temps, tout le challenge, c'est de réussir à émerger. Alors moi, pour le coup, je me suis lancée dans l'univers de la tablette de chocolat, qui est quand même une catégorie qui est préemptée par des gros industriels aujourd'hui. Donc je m'attaque effectivement à des géants de l'industrie agroalimentaire, donc c'est compliqué d'émerger dans un contexte comme ça. Donc le challenge, c'est aussi de réussir à faire parler du projet pour être visible et travailler la notoriété effectivement de la marque.
Merci beaucoup Amélie Coulon pour votre témoignage et on vous souhaite de continuer, hein, ce bon développement de Crocola. C'est une belle aventure et on vous souhaite effectivement de rencontrer beaucoup de succès. Ça commence bien déjà à être référencé dans la grande distribution, en plus une belle enseigne. On va dire que c'est un bon début.
Oui, c'est un bon démarrage. Bon, merci en tout cas. Merci.
Bravo à vous Amélie Coulon. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice des chocolats Crocola, des chocolats pour les enfants avec du vrai cacao. Merci Amélie. Je vous souhaite un bon dimanche.
Au revoir.
Au revoir. Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui a rencontré une toute jeune apprentie dans un domaine totalement différent, la mécanique. C'est l'occasion de souligner l'importance de l'apprentissage dans l'accès au métier de l'artisanat.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Et oui Nathalie, on continue à parler d'artisanat et on va explorer un univers totalement différent, celui de la mécanique, avec une jeune apprentie qui s'appelle Caroline Pereira, qui est apprentie en maintenance automobile. On précise qu'aujourd'hui on est dans un garage à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Alors dites-moi, ça consiste en quoi en fait, être apprentie?
C'est à peu près une semaine de cours, on a tous les cours en général, tout ce qui est français, matière générale. Et tout ce qui est théorie, la pratique, etc. La deuxième semaine, on va au travail pour pratiquer notre métier de base.
Alors dites-moi, c'est quoi la base du métier?
La base du métier, c'est de tout vérifier, c'est d'ausculter la voiture. On commence à regarder l'état du véhicule, regarder les pneus, regarder les plaquettes. Après, tout dépend de ce qu'il y a à faire sur le véhicule.
Alors c'est quoi justement, dites-moi, les interventions les plus fréquentes?
Après, tout dépend du kilométrage du véhicule. Mais c'est souvent tout ce qui est révision, ou plaquettes. Et après, en grosse mécanique, c'est rare. Il y a souvent des distributions ou de l'embrayage.
Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus là-dedans?
Démonter le moteur.
Mettre les mains dans le cambouis et vraiment partir inspecter ce moteur?
Exactement. Exemple, pour faire... Enfin, maintenant, malheureusement, on est plus des remplaceurs de pièces, mais c'est plus dans le remplacement de grosses pièces, tout ce qui est moteur, boîte de vitesse. J'apprécie vachement tout démonter.
C'est pour ça, moi je me rends compte qu'on est vraiment au cœur d'un artisanat.
C'est ça. On a bien les mains noires. Après, énormément de métiers sont de l'artisanat, tout ce qui est le bâtiment, etc., plomberie, etc. Mais la mécanique, on est comme des médecins des véhicules en fait. Après, il faut aimer le métier pour le faire. Comme voilà. Tout métier.
Donc c'est une vraie passion. Il y a beaucoup de femmes dans cet univers.
Malheureusement, il y en a très très peu, mais après, ça se diversifie, donc il y en a de plus en plus. Mm-hmm. C'est ça qui est bien.
C'est difficile ou pas d'évoluer comme ça dans un univers assez masculin?
Franchement, dans mon garage, pas du tout. Ça fait 4 ans que j'y suis, on m'a jamais mal parlé, on m'a jamais critiqué parce que j'étais une femme. Après, oui, des fois c'est compliqué d'évoluer ou autre, en sachant que c'est un métier d'homme entre guillemets. Mmh. Mais si tu as envie, si tu le veux, tu peux le faire.
Alors, quelles sont vos envies, là, une fois que vous aurez fini cette période d'apprentissage? Je sais pas, c'est ouvrir un garage, c'est qu'est-ce que c'est?
Franchement, je sais plus. Soit je deviens expert automobile, soit je deviens ingénieur en automobile. Et après, je sois chef d'atelier ou je sais pas du tout. Je suis en pleine remise en question à cause du Covid, malheureusement. L'automobile, après, c'est pas un secteur fermé. On peut évoluer dans plein de choses. On peut devenir professeur mécanique. Il y a plein de choses qui se diversifient dans ce métier.
Ça fait son chemin et vous allez vraiment trouver la voie qui vous convient. Écoutez, bonne chance. Merci beaucoup à vous.
Oui, Caroline, vous allez réussir à trouver votre voie et on l'entend à travers votre témoignage qu'il y a de plus en plus de femmes dans ces métiers dits masculins. Et pour ceux d'ailleurs qui souhaiteraient rejoindre un métier de l'artisanat, n'oubliez pas que le réseau des chambres des métiers de l'artisanat est là pour vous accompagner, pour vous guider notamment dans ces reconversions professionnelles. Merci à nos invités Anne Garnier, Olivier Guyot de Georges et Georges. Merci à Amélie Coulombe de Crocola. On vous souhaite beaucoup de réussite dans vos nouvelles vies. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et bien évidemment, même radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Bon dimanche à tous.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.